commence ce journal avec une étude parue dans la revue Science. Certains oiseaux ont une conscience similaire à celle des mammifères.
Et les humains ont tendance à croire qu'ils sont les seuls à posséder certaines capacités. Une équipe allemande a mené une série d'expériences avec deux corbeaux. Ils leur ont appris à réagir face à des stimuli visuels sur un écran. Devant un carré rouge, ils devaient picorer pour montrer qu'ils avaient bien vu l'image. Devant un carré bleu, ils ne devaient pas le toucher. Puis, les chercheurs ont changé l'intensité lumineuse de ces images, on ne les voyait plus très bien. Pendant ce temps, l'activité cérébrale des oiseaux était mesurée par électroencéphalogramme. Parfois, les oiseaux ne réagissaient pas, alors que mécaniquement, ils voyaient bien ces images. Selon les auteurs, cette activité neuronale est liée à une perception subjective. Alors que l'on pensait qu'ils en étaient dépourvus, cette étude apporte la preuve d'une conscience sensorielle chez les corbeaux. Une conscience sensorielle, c'est-à-dire une conscience de la perception. Agatha Liévin-Bazin est docteur en éthologie et spécialiste des comportements d'empathie des corvidés.
À partir de là, voilà, on essaie d'analyser ce que les oiseaux ont, on va dire, mécaniquement perçu visuellement de l'image. Et ensuite, dans ces questions justement où l'intensité est compliquée pour eux à voir, on voit émerger une activité des neurones qui laisse à penser qu'ils s'interrogent, ou en tout cas que voilà, il y a une activité neuronale supplémentaire qui est différente de celle qui est vraiment purement mécanistique de je vois quelque chose, je tape pour obtenir une récompense. C'est vrai que les oiseaux ont un cerveau lisse, alors que nous, mammifères, on a tous ces replis, ces circonvolutions. Et pendant très très longtemps, on a pensé du coup que, vu qu'on n'a pas les mêmes zones exactes, le néocortex qu'il y a chez les mammifères, on ne le retrouve pas exactement chez les oiseaux. Pendant longtemps, on s'est dit, on ne trouve pas cette zone-là, donc les oiseaux sont sans doute pas capables de faire ce que nous permet à nous, mammifères, cette zone-ci. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des analogues, des zones qui auraient les mêmes fonctions, même si elles ont des structures différentes. Et c'est ce qui explique ici, avec le pallium, avec tout ça chez l'oiseau, que finalement, même si c'est différent, il y a quand même de fortes chances que les mêmes fonctions soient assurées dans le cerveau des oiseaux par rapport à celui des mammifères. Ça donne des pistes vraiment assez extraordinaires sur ce que ces animaux perçoivent et ont comme intériorité subjective, on va dire, comme conscience sur la question, mais ça reste une expérience subjective, et comme nous ne sommes pas des corbeaux, ça reste encore difficile à rendre compte pour un être humain, je pense.
En bref, vous avez peut-être entendu parler de cette étude coréenne qui indique que 9 personnes sur 10 atteintes de Covid pourraient souffrir de séquelles persistantes, mais il s'agit, Natacha, de résultats très très préliminaires de l'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.
Oui, c'est-à-dire qu'on sait que le Covid-19 peut avoir des effets secondaires persistants, ce qu'on appelle parfois le long Covid, mais jusqu'à quel point, on ne sait pas bien. Alors cette annonce de la Corée du Sud, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Ce n'est qu'une annonce, aucune étude n'est sortie, elle n'a donc pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs. De plus, on ne sait pas à quel point les patients étaient gravement malades. Il s'agit aussi d'une enquête en ligne, donc cela ne s'appuie que sur du déclaratif. Bon, toute précaution prise, sur ces 965 patients atteints de Covid-19, plus de 91%, 879 patients, ont déclaré souffrir d'au moins un effet secondaire après la guérison. Une fatigue persistante, c'est l'effet secondaire le plus courant, avec 26% de réponses, puis une difficulté de concentration suivie par d'autres séquelles comme la perte de goût ou d'odorat. De récentes pré-publications et petites études italiennes et irlandaises vont également dans ce sens.
Mais on va attendre des études un peu plus solides pour en avoir la certitude. Allez, cette semaine dans le Journal des Sciences, il a été question d'anomalies génétiques et immunologiques qui seraient à l'origine des cas graves de Covid. Il a été question de la détection de zones humide, voire de lacs souterrains sous la surface de Mars, de la découverte d'un des points faibles du SARS-CoV-2, de la détection d'un gigantesque trou noir supermassif massif très ancien, mais également dans l'actualité des sciences cette semaine, attaché en ultra bref.
Et les scénaristes de Jurassic Park y ont pensé, des chercheurs l'ont fait. Une collaboration internationale vient de prouver qu'il est bien possible d'extraire de l'ADN d'insectes piégés dans de la résine. Alors pour le moment, ce ne sont que des échantillons vieux de 6 ans. On n'en est pas au clonage de dinosaures, mais ce travail prouve que l'ADN piégé dans de l'ambre peut bel et bien être conservé pour être ensuite prélevé. Cette semaine, une équipe chinoise a montré que les artères endommagées par une maladie cardiovasculaire pouvaient être remplacés par des vaisseaux sanguins électroniques. Un vaisseau sanguin artificiel de 2 mm en métal, en plastique et en électrode a été implanté sur des lapins pour remplacer leur artère carotide. L'opération est un succès, les artères artificielles fonctionnent aussi bien que les artères naturelles. Et enfin, cette semaine, le ministère de la Santé a révélé qu'en 2019, les hôpitaux et les cliniques ont supprimé plus de 3400 lits d'hospitalisation, ce qui a réduit leur capacité d'accueil de près de 1%. Faute de moyens, les centres de santé privilégient les prises en charge à la journée en ambulatoire.
Voilà, c'était pour le Journal des Sciences. Comme un vendredi sur deux, c'est notre vendredi science-fiction. On fait donc un premier pas vers le futur pour le Journal de la science-fiction. Et une étude parue dans Scientific Reports, Natacha, a calculé le nombre minimum d'êtres humains nécessaires pour survivre sur une autre planète.
Oui, un chercheur français a voulu répondre à cette question fondamentale. Pour coloniser d'autres planètes, comme Mars par exemple, combien de colons sont nécessaires pour que cela marche? Mais seulement en termes de charge de travail. Alors ce chercheur a développé un modèle mathématique en partant du principe qu'il s'agirait d'une colonie isolée, totalement autonome, sans possibilité de réapprovisionnement depuis la Terre. Qu'il faudrait donc tout produire sur place. L'eau, l'air, le fer, la production d'énergie, de bâtiments, etc. Il a considéré toutes les activités nécessaires à la survie et a déterminé le nombre d'heures de travail nécessaires. Selon ces équations, il ne faudrait que 110 êtres humains pour survivre sur place. Alors 110, c'est un chiffre étonnamment bas, comme quoi il n'y a pas besoin d'être nombreux pour coloniser d'autres planètes. Jean-Marc Salotti est professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Bordeaux. Il est l'auteur de cette étude.
C'est assez complexe, en fait, en vérité, comme question. On ne sait pas par quel bout l'aborder. Je me suis dit que la solution la plus simple, c'était d'essayer de déterminer le nombre minimum d'heures de travail qui seraient nécessaires pour survivre, en comptant tout, c'est-à-dire en fait, il faut de l'air, il faut de la nourriture, il faut pouvoir produire des objets, donc combien de temps il faut en termes d'heures de travail, et combien d'heures seraient disponibles si on avait deux personnes, ou trois, ou dix, ou vingt, et trente, etc. Sachant qu'au bout d'un certain temps, disons, au bout d'un certain nombre de personnes, on arriverait à partager des choses, ce qui réduirait en fait le nombre d'heures requises de travail. Notamment, il y avait un paramètre fondamental de mon modèle qui est le facteur de partage. Par exemple, un véhicule, on avait besoin sans doute d'avoir un véhicule pour aller chercher, je ne sais pas, du minerai de fer, par exemple, situé un peu plus loin. Et donc, si on est 4 sur Mars, il faudrait un véhicule. Mais si on est 10, peut-être qu'on pourrait se contenter d'un seul véhicule quand même. Et si on est 100, eh bien, peut-être que 4 véhicules suffiraient, par exemple. Donc, c'est pour ça que plus on est nombreux, et plus les besoins, finalement, relativement par personne, si vous voulez, diminuent. Petite parenthèse quand même, 110, c'est une estimation très approximative, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup d'hypothèses de travail, donc en faisant de petites modifications sur certains paramètres, on obtient tout de suite, par exemple, 200 personnes, d'accord? Mais enfin, c'est une première estimation. Je n'avais encore jamais vu d'article qui avait estimé ce nombre avec une telle modélisation de comparaison du nombre d'heures de travail par rapport au nombre d'heures disponibles. Et donc ça, c'est important, parce que finalement, mais beaucoup de gens, finalement même des spécialistes, par exemple, disaient que survivre sur Mars, c'est pas possible, parce qu'il faudrait amener beaucoup trop de choses, on ne s'en sortirait jamais. Et ils pensaient sans doute que le nombre de personnes était de l'ordre de 10 000 ou 20 000, ou peut-être plus encore. Et donc, en fait, en aboutissant à un nombre qui est de l'ordre de 110, bon, peut-être un peu plus, à voir, à discuter, mais c'est vrai que c'est, du coup, on devient un peu plus optimiste sur la faisabilité de l'établissement de bases permanentes sur une autre planète. Donc, ça devient beaucoup plus envisageable.
Voilà, on parle de la force de travail. Moi qui, évidemment, l'esprit mal placé, je pensais que c'était la diversité génétique pour perpétrer l'espèce. Bien, pas du tout. C'est vraiment juste le nombre de bras qu'il faut pour porter les caisses.
L'huile de coude.
De l'huile de coude, exactement. Allez, en bref, Natacha, une étude parue dans la revue Aerospace Science and Technology décrit un nouveau type de vaisseau spatial habitable capable de s'agrandir au fil du temps.
Oui, au lieu d'essayer de construire des colonies à la surface de Mars, une équipe d'ingénieurs aérospatiaux américains ont pensé à un nouvel habitat spatial qui reproduirait une gravité artificielle. Un vaisseau en forme de cylindre concentrique avec une rotation autour d'un axe afin de créer une force gravitationnelle. Alors, outre la gravité, les ingénieurs ont également conçu des boucliers pour protéger les habitants des radiations cosmiques mortelles avec une couche externe d'eau et de roche de 5 cm d'épaisseur. 5 mètres, pardon, d'épaisseur, c'est pas beaucoup.
5 cm.
5 mètres d'épaisseur et chaque extension en fait permet d'ajouter un cylindre supplémentaire pour agrandir les espaces de vie. Selon les auteurs, cette arche de Noé de l'espace pourrait accueillir jusqu'à 8000 personnes.
Les Furtifs, le roman d'Alain Damasio paru en 2009 aux éditions La Vol, vient d'être adapté en application de réalité augmentée.
Oui, dans ce roman de science-fiction, il est question de MOA, My Own Assistant, un logiciel d'assistance et de régulation de la population, un système qui contrôle les habitants d'une ville. Avec la complicité d'Alain Damasio, l'application MOA vient de paraître sur l'Apple et le Google Store pour des téléphones portables. Elle propose une expérience immersive qui se joue avec un casque audio et en extérieur, le téléphone téléphone à la main. Cette application propose donc une réflexion sur l'omniprésence de nos technologies et sur nos usages.
Et enfin, l'adaptation en série du roman Le problème à trois corps de Liu Cixin crée de la polémique.
Oui, Netflix avait annoncé que David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de Game of Thrones, allaient adapter cette saga SF. Mais le romancier chinois a déclaré dans une interview qu'il trouvait le génocide ouïghour légitime. Des propos qui ont choqué des sénateurs américains qui demandent à Netflix de ne pas maintenir le projet sous peine de complaisance, voire de complicité. Liu Cixin est directement associé au projet comme consultant. Néanmoins, on pourra se réconforter si jamais avec une autre série. Netflix vient d'annoncer qu'elle allait adapter une autre icône de la fantasy, Conan le Barbare.
Et comme chaque vendredi, on termine par notre rubrique de science improbable. Une étude parue dans Scientific Report à nouveau, s'est penché sur le bonobo et sur une forme de communication qu'on va dire surprenante.
Oui, l'équipe française vient de découvrir un mode de communication chez le bonobo femelle. Les femelles adultes se penchent en avant, basculent leur postérieur et exhibent leur partie génitale aux yeux de toute la communauté. Alors, c'est une posture qui n'a pas l'air très confortable et qui n'est pas pratiquée par les mâles. Ce serait un des signaux très perceptibles de fertilité, mais pas seulement. Selon les chercheurs, cette position encourage aussi une sociosexualité féminine entre les femelles. Les bonobos attiraient ainsi d'autres femelles pour renforcer des alliances féministes, je cite.
Et voilà, pendant ce temps-là, les bonobos, eux, ils se régalent, comme dit le vieux proverbe. Merci beaucoup, Natacha.